Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 9 avril 2022. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, dernières heures avant l'élection présidentielle en France, nous prendrons le pouls donc dans le pays sur les situations et sur les grandes questions donc, de cette élection. Nous partirons également parler, discuter dans le premier volet d'Europa Voice sur l'Ukraine et l'état de la situation en Ukraine. Et nous parlerons d'un saucisson made in Australia. Saucisson de kangourou. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. En Ukraine, une attaque russe dans une gare fait plus de 50 morts. En Belgique, une usine Ferrero qui est fermée par les autorités sanitaires pour cause de trop grand nombre de cas de salmonellose. On verra ça dans ce journal. Et en France, je vous le disais en titre, la campagne électorale qui est terminée. Les Français voteront demain à travers le monde. On débute ce journal donc avec l'Ukraine. Au moins 52 morts sont à déplorer après le bombardement de la gare de Kramatorsk, une ville située sur la ligne de front dans la région du Donbass, une ville qui fait face à l'avancée des forces russes dans la région. Environ un millier de personnes attendaient sur le quai de la gare afin d'être évacuées quand le bombardement a eu lieu. Les autorités russes nient toute implication et le président ukrainien dénonce un crime inhumain. Pour John Kirby, l'un des porte-parole de la Maison Blanche, cette attaque ne fait aucun doute. On l'écoute.
We find unconvincing Russian claims that they weren't involved, particularly when the ministry actually announced it, and then when they saw reports of civilian casualties, decided to unannounce it. So our assessment is that this was a Russian strike, and that they used a short-range ballistic missile to conduct it.
C'était donc John Kirby, le porte-parole, l'un des porte-parole de la Maison Blanche. Toujours en Ukraine, direction Mykolaïv, une ville qui se trouve sur la route du port d'Odessa. La ville comptait plus de 450 000 habitants avant le début des hostilités. Et avec le resserrement des combats à l'est, la tension monte encore d'un cran dans cette ville. On l'écoute.
Derrière l'hôpital, une tractopelle est en action. Des murs de protection sont montés autour du local qui renferme les réserves d'oxygène. La sécurité de l'établissement est revue à la hausse après le bombardement de lundi.
Une bombe à fragmentation a explosé ici. Ça se disperse dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de casse.
Dans la cour, le médecin-chef de l'hôpital pédiatrique régional, Alexandre Plitkin, montre les dégâts. Vitres brisées, fissures sur les façades, des centaines d'éclats sur les bâtiments et sur le bitume, les impacts caractéristiques des armes à sous-munitions en forme de rosace.
Ici stationnaient des voitures, elles ont été défoncées. Des sous-munitions ont même atterri là-bas, dans l'autre aile, où 18 fenêtres ont été soufflées. Partout, il y avait des billes, des bouts de métal, tout volé autour. C'est typique des bombes à sous-munitions. J'ai compris que c'était une arme terrible. Pourquoi ont-ils décidé de bombarder un hôpital pédiatrique? C'est une grande question. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans leur tête.
Aucun patient ni soignant n'a été touché au cours de l'attaque, mais les explosions ont fait des victimes à l'extérieur. Elles ont reçu les premiers secours dans l'hôpital pédiatrique.
Et c'était un reportage d'Anastasia Becchio en Ukraine, donc pour RFI. Des hauts responsables de l'Union européenne ont visité des sites sur les récentes attaques russes en Ukraine, non loin de l'une des trois fosses communes découvertes à Boutcha depuis le retrait des troupes russes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est engagée à soutenir l'Ukraine, et je cite, de toutes les manières possibles. Outre plus d'armes, Ursula von der Leyen a promis d'accélérer la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, affirmant que cela pourrait être en fait solutionnée en quelques semaines. Elle a été, elle a remis au président Volodymyr Zelensky un questionnaire qui est bien la première étape de la candidature du pays à l'adhésion à l'Union européenne, dont ce qui est susceptible, on le sait, d'exaspérer davantage les Russes. On écoute Ursula von der Leyen.
The unthinkable has happened here. We have seen the cruel face of Putin's army. We have seen the recklessness and the cold-heartedness with which they have been occupying the city.
Et c'était la présidente de l'Union européenne, donc Ursula von der Leyen. 13h05, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Les experts occidentaux s'accordent à dire que l'armée russe est pour le moment très affaiblie par les pertes survenues dans son camp en Ukraine et qu'elle ne s'attendait pas à de telles résistances à travers le pays. Ils décrivent un début de conflit raté par les Russes qui espéraient prendre Kiev en quelques jours. On écoute l'avis de Philippe Gros, il est chercheur à la Fondation sur la recherche stratégique à Paris.
Vous avez 100% des forces vives, des capacités opérationnelles réelles de la force terrestre russe engagées en Ukraine. Ils subissent des pertes énormes, une usure énorme. Selon les Américains, la semaine dernière, ils avaient tiré 1300 missiles. 1300 missiles calibre Iskander, même missiles Bastion et missiles de défense côtière, ceux qui ont été tirés sur Odessa. Ce stock de missiles de précision, donc conventionnel, en tout cas, il est largement dépensé. Or, c'est un stock qui a été amassé année après année. Sur ce plan-là, l'armée russe, quand bien même elle pourrait industriellement remonter en puissance, elle ne disposera plus, sur le plan conventionnel, des capacités de projection de puissance qui étaient les siennes avant le conflit. Même si la guerre s'arrêtait au bout de ces deux mois d'opération, avec d'une part les pertes qu'ils ont subies, d'autre part ce qu'ils ont dépensé comme ressources et les efforts qu'il faudrait en termes de régénération des capacités sur le plan industriel, compte tenu des sanctions, notamment sur toute une série de ressources critiques. Et sur le plan conventionnel, leur appareil de force, il est structurellement affaibli et dans des proportions qui me semblent notables.
En Belgique maintenant, c'est toute une usine Ferrero qui est à l'arrêt après de nombreux cas de salmonellose, notamment dans le chocolat Kinder. Cette maladie est l'une des causes importantes de décès par intoxication alimentaire. Les explications de Jean-Jacques Herry à Bruxelles.
L'usine est située à Arlon, au sud de la Belgique, à la frontière avec le Luxembourg. Chaque année en sortent 7% des volumes mondiaux des produits Kinder. Et pour l'Agence de sécurité alimentaire belge qui a ordonné l'arrêt du site, le lien entre les confiseries élaborées sur place et la centaine de cas de salmonellose recensés est confirmé. L'usine fabrique toute la gamme de produits Kinder, Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs et Chocobon. Autant de références consommées par les enfants qui seront toutes retirées des rayons à une semaine de Pâques, et ce, indépendamment des lots ou des dates de péremption, précise l'Agence de sécurité alimentaire belge, qui ne veut prendre aucun risque. Alors qu'elle estime avoir reçu des informations incomplètes de la part du groupe Ferrero, ce dernier se défend en évoquant des défaillances internes avec des retards dans le partage d'informations après la détection de salmonelle. Pour le moment, l'enquête sanitaire se poursuit. L'usine ne rouvrira que lorsque les autorités l'auront certifiée.
Et c'était Jean-Jacques Herry à Bruxelles pour RFI. En France, je vous le disais en titre, ce dimanche, les électeurs sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Alors si vous êtes français et êtes inscrit sur les listes électorales, eh bien pour, vous pouvez également voter en Australie, bien entendu. Renseignez-vous auprès de vos consulats ou consulats honoraires respectifs pour connaître le lieu et les heures d'ouverture des bureaux de vote à travers le pays. En France, sur le territoire français, la campagne électorale est officiellement terminée et juste avant la clôture de cette campagne, tous les candidats ont appelé à aller voter, la participation à cette élection étant l'une des questions clés pour ce premier tour du scrutin. D'ailleurs, prenons le temps dans ce journal pour s'arrêter sur ces raisons d'un si fort taux d'abstention possible cette année avec ce reportage de Laurence Théo pour RFI.
Le chien tire sur la laisse et le soleil s'obstine dans le ciel de Paris. Chantal est à la retraite. Pour la première fois de sa vie, elle n'ira pas voter car elle ne fait plus confiance aux politiques.
Ils sont dans leur propre monde et dans ce monde qui est en fait un monde de technocrates et non pas d'un monde réel. Et il ferait bien de descendre un petit peu dans la rue et de savoir combien coûte un ticket de métro. Et cette fois-ci, je n'irai pas voter.
Même constat pour Mustapha, 40 ans. Dans son dos, un mur de paquets de cigarettes. Il tient le bureau de tabac.
Et on a l'impression qu'on a un très gros décalage avec les gens qui soi-disant nous représentent alors qu'on ne s'y retrouve pas.
Le vote est un droit. Est-ce que les abstentionnistes ne se privent pas de ce droit
et... En fait, en ne votant pas, c'est une forme d'expression.
Politologue Dorian Dreuil est également cofondateur de l'ONG A Voter. Il avance une explication.
Il y a une abstention qu'on pourrait appeler d'abstention civique, de gens qui ne souhaitent pas participer au scrutin par choix, parce qu'ils ont le sentiment que le politique ne leur parle pas. Et là aussi, c'est un enjeu, la représentation. Beaucoup de citoyens ont le sentiment que les politiques ne leur ressemblent pas. Et pour rassembler, il faut ressembler.
Selon l'Ipsos, l'abstention pourrait franchir la barre des 30% le 10 avril prochain. Un record pour une élection présidentielle sous la Ve République. À 150 km de Paris, la banlieue de Rouen. Mehdi a 29 ans, il travaille par intermittence dans le bâtiment. Il est désabusé et ne votera pas à cette élection comme aux précédentes.
Avec le temps, malheureusement, c'est devenu une habitude. On n'y croit pas. Vous allez tout de suite parler à une bande de jeunes au Château Blanc ou n'importe où. On va leur expliquer que oui, il faut faire sa carte pour voter. Voilà. À part des stades de foot, nous, on ne nous a jamais fait grand-chose. Et encore, des stades de foot, ils existent depuis longtemps. Et à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, eh ben, on nous repousse. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on ne s'intéresse pas à la politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas notre mot à dire.
Mais l'abstention peut être un signe de désespoir. Les jeunes qui discutent dans le hall de cet immeuble de 15 étages d'une cité à Sarcelles, ville pauvre de la banlieue parisienne, eux n'espèrent rien. Mohamed, Rachid et Kevin se sentent abandonnés.
Regardez madame, le plafond il est tout craqué, il y a des gros trous, on voit des tuyaux, il y a de la merde, on sait pas ce que c'est. C'est limite, hein. c'est limite.
Je fais pas confiance à la politique, c'est tous les mêmes. Ils font tous un discours qu'après ils assument pas.
La gauche, la droite, au milieu, là-haut, en bas. Et ici on s'intéresse pas à ça.
Personne, je crois que personne de ce bâtiment va voter. Personne.
Lors de la présidentielle de 2017, un jeune sur trois s'était abstenu de voter au premier comme au deuxième tour.
C'était donc un reportage de Laurence Théo sur RFI. Je vous rappelle une nouvelle fois que eh bien, c'est un droit de voter en France. Si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à consulter les sites de vos consulats respectifs pour savoir où se trouve le bureau de vote le plus proche pour vous. 13h12, petit tour de la météo en Australie pour cet après-midi. À Perth, il fera 23 degrés. Adélaïde, 28 degrés. À Melbourne, 26. Hobart, 24. Canberra, 21. Vous aurez 24 degrés à Sydney. Il fera 25. 7 à Brisbane, Cairns 31 degrés et la palme des températures comme en gros à chaque fois, c'est 34 degrés pour Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité en ce 9 avril. En Ukraine, une attaque russe sur une gare qui a fait plus de 50 morts. Une usine Ferrero en Belgique qui est fermée par les autorités sanitaires à cause d'un grand nombre de cas de salmonelle, notamment dans le chocolat Kinder. Et en France, on vient de le voir, la campagne électorale qui est terminée. Les Français voteront demain à travers le monde. 13h12, on fait une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le reste du programme.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'était Eddy de Préto et Julien Doré avec cette chanson « L'arme fatale » qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'avril. Sélection musicale d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur Spotify, cherchez pour le mois d'avril en SBS French et vous retrouverez donc toute notre sélection musicale pour ce mois. 13h18, vous écoutez le programme en français, on fait une courte pause et vous écouterez le premier volet de Europa Voice de cette semaine où avec Nathan Allel-Block, nous décryptons la situation en Ukraine tout de suite après ça. Euro Europa Voice numéro 94, et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
94, on s'approche de la centaine, on ne peut pas passer à travers bien l'Ukraine, la situation en Ukraine, et ce que cela veut dire pour l'Union européenne et des décisions point de vue politique et économique. Tout d'abord, Nathanaël, qu'est-ce qu'on sait de cette situation aujourd'hui à plus de 40 jours de combat en Ukraine ?
Ce qu'on sait, en tout cas, ce qu'on peut se demander maintenant, après effectivement plus de 40 jours de combat, c'est l'objectif de Vladimir Poutine, finalement. Parce que, rappelons-nous, quand la guerre avait été déclenchée par le président russe, fin février, on savait que l'idée, c'était pour Poutine de renverser le gouvernement et finalement de mettre fin à ce que lui considérait comme un désir de rejoindre l'OTAN et de couper toute velléité ukrainienne, finalement, de s'émanciper. Et puis là, on a l'impression que même sur le terrain, en fait, les objectifs militaires de Poutine se sont déplacés vers l'Est, et que surtout Zelensky lui-même montre aux dirigeants russes que ses velléités de rejoindre l'Alliance Atlantique et même l'Union Européenne se sont un petit peu éloignées. Donc c'est véritablement une question qu'on peut se poser maintenant, encore une fois, après plus de 40 jours de conflit, c'est qu'est-ce que veut véritablement Vladimir Poutine. Ça, c'est la première chose pour moi, Christophe, qui est importante de se poser comme question. La deuxième chose, en fait, c'est par rapport à la réaction de l'Union européenne et aux sanctions. On l'a vu, hein, on l'a discuté ensemble plusieurs fois, donc les Européens ont décidé de ne pas agir sur le plan militaire, mais de pratiquer des sanctions économiques avec plusieurs vagues de sanctions. Mais on le voit aussi, hein, finalement, ces sanctions, elles sont limitées, hein, la Russie ne s'est pas effondrée. Et donc, la question, c'est de savoir si le conflit est amené à durer, quelles sont les autres options pour l'Union européenne pour continuer à pouvoir peser et menacer finalement la Russie avant qu'elle ne puisse agir de manière finalement indéfinie et que le conflit s'enlise. Donc, finalement, des deux côtés, et du côté russe sur le terrain et du côté européen, on rentre un petit peu dans cette fenêtre d'incertitude à la fois et sur les objectifs et sur les sanctions.
Il faut aussi rappeler qu'il y a sûrement de l'incertitude dans les pays annexes aussi, hein, par rapport à autour de l'Ukraine. Hein, je pense à la Moldavie par exemple. Grosse question sur ce qui peut advenir de pays comme la Moldavie par exemple.
Oui, c'est en fait une crainte aussi de l'Union européenne, et c'est pour ça que les dirigeants européens finalement avaient agi assez rapidement. C'est que ils n'avaient pas envie que la Russie, enfin ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, fasse tache d'huile sur d'autres pays limitrophes en Europe de l'Est, mais aussi, et ça c'est un point je crois qu'il est important de rappeler, c'est que l'Europe a voulu agir vite aussi, parce que c'était une question de crédibilité politique. Encore une fois, avec ce qui est en train de se passer et le massacre d'il y a quelques jours à Boutcha et la découverte de ces corps dans les rues, et surtout la requalification la qualification pour la première fois par le président ukrainien de génocide par rapport à ce que fait Vladimir Poutine et ce que font ses sbires, c'est aussi un élément important, évidemment d'un point de vue moral, Christophe, mais aussi d'un point de vue de l'Europe. C'est-à-dire que si l'Union européenne, au-delà du fait de savoir s'il y a un objectif politique, elle n'est pas capable de réagir finalement et de prendre des mesures quand on en est à se demander si ce qui est en train de commettre Vladimir Poutine peut être qualifié de génocide, si on parle d'une extermination, comme le prétend Vladimir Zelensky en parlant d'éliminer toute la nation et toutes les nationalités présentes en Ukraine, alors quel est le rôle de l'Union européenne finalement, Christophe ? Donc à la fois c'est tache d'huile sur les autres pays et ex-satellites de l'URSS, mais également, encore une fois, la crédibilité de l'Union européenne qui est en jeu.
Oui, il faut revenir sur un point également. Angela Merkel, donc l'ancienne chancelière allemande, on a beaucoup parlé d'Angela Merkel au sein d'Europa Voice dans les dernières années, mais Angela Merkel, en 2008, elle avait bloqué l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine. Et aujourd'hui, cette semaine, elle en a reparlé en disant qu'elle maintenait sa décision, elle maintenait les raisons de sa décision. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même, est-ce que c'est valable de revenir sur cette décision, et qu'est-ce que ça aurait pu changer en fait une Ukraine dans l'OTAN en 2008?
Alors bon, c'est toujours délicat en fait de faire d'une certaine façon de la politisation et des si, etc. Il faut savoir aussi que par rapport aux critères de rentrée d'adhésion à la fois dans l'OTAN mais surtout dans l'Union européenne, les pays peuvent faire des demandes, mais même avant d'y entrer, en fait, ils doivent respecter un certain nombre de critères pour que les demandes elles-mêmes soient considérées. Si vous voulez, c'est comme une présélection. Et dans ce qu'avait la manière dont avait réagi ou les décisions qui avaient été prises à l'époque par Angela Merkel, c'était simplement pour signifier que par rapport à plein de critères, on en avait parlé dans des épisodes précédents d'Europa Voice, l'état de droit, l'état de l'économie, etc. L'Ukraine n'était pas prête à ce moment-là à adhérer. Et donc, je crois que c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que effectivement, on en a beaucoup parlé, il y a une procédure accélérée pour la rentrée d'un pays dans l'Union européenne, par exemple, mais il faut qu'il y ait des contreparties. Et d'une certaine façon, les contreparties, elles ne sont pas analysées parce qu'il y a une agression d'un autre pays et que ça vous protégerait. Non, elles sont analysées de manière, j'allais dire, assez neutre. Et il faut juste voir si les critères font que vous puissiez, encore une fois, prétendre, non pas accéder, mais prétendre simplement à ce que votre dossier soit examiné. Donc, je crois que c'est ça l'élément qui est important d'expliquer à nos auditeurs. Et c'est pour ça que Angela Merkel certainement maintient sa décision au vu de ce qu'elle considère encore aujourd'hui comme des critères d'adhésion ou de prise en compte du dossier ukrainien. Mais voilà, je crois que c'est important de le préciser. Et puis, d'une certaine manière, quand Zelensky lui-même affirme que maintenant il n'est plus question d'entrer dans l'OTAN et qu'on parle de neutralité, etc. D'une certaine façon, c'est pas non plus de l'eau qui va jouer en sa, enfin, c'est pas quelque chose qui va jouer, pardon, en sa faveur, même si le conflit s'arrête avec la Russie. Et quand le conflit s'arrêtera, parce que ça veut bien dire aussi que finalement sa candidature, elle est conditionnée encore une fois à cette agression extérieure. Alors que c'est un peu plus compliqué que ça. Ça veut pas dire que ça ne justifie évidemment en aucun cas une agression comme c'est le cas avec la Russie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut décorréler la réaction militaire, ce qui est en train de se passer, de l'étude d'un dossier pour adhérer à l'OTAN et encore de manière, j'allais dire, plus approfondie à l'Union européenne.
Et si on parle des sanctions, parce qu'il y a quand même toute une différente vague de sanctions qui ont été mises en place contre la Russie, jusqu'où on peut aller ? Puisque clairement, c'est compliqué pour l'Union européenne et certains pays de l'Union européenne de se passer, de se priver du gaz russe et du pétrole russe. Mais jusqu'où on peut aller au niveau global de l'Union européenne, sans parler de pays après pays, mais comment et quelles autres décisions peuvent prendre les membres de l'Union européenne ?
Alors, il y a une phrase, une déclaration assez importante, je pense, du président du Conseil européen, Charles Michel, qui a déclaré cette semaine que tôt ou tard, une décision devrait être prise quant au fait de se passer ou pas du gaz russe. C'est-à-dire que on en est arrivé à un cinquième paquet de sanctions cette semaine, là, donc début avril, notamment un embargo sur les achats de charbon. Donc oui, on est déjà à la cinquième salve de sanctions. Mais le game changer, Christophe, en mauvais français, c'est véritablement renoncer au gaz russe. C'est ça qui fera que, pour l'instant, enfin c'est ça qui fait que pour l'instant l'agression russe en Ukraine continue. C'est que les Européens, malgré ces sanctions, et il faut aussi regarder la réalité en face, malgré ces sanctions, les Européens, pour l'instant, continuent d'acheter du gaz russe et donc par conséquent, continue de financer, même de manière indirecte, la guerre qui est menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Je crois que c'est le nœud gordien de ce problème-là, Christophe. Il y a un chiffre, moi, qui m'a frappé, que j'ai vu dans un article de nos confrères du Monde, c'est que depuis le début du conflit, donc 40 jours, la facture énergétique, ce que payent les pays de l'Union européenne à la Russie, par rapport à ce gaz, le montant est de 35 milliards d'euros. Si on prend ce chiffre et qu'on le compare, Christophe, à la valeur, par exemple, des armes qui ont été livrées à Kiev, et ça, c'est le chef de la diplomatie européenne qui en parle, Joseph Borrell, le montant, il est de 1 milliard. Le rapport est de 1 à 35. Donc, vous voyez, c'est pas simplement une autre sanction parmi d'autres, le gaz russe. C'est la sanction qui va faire que la guerre et les décisions qui vont être prises par Poutine vont avoir une autre tête. Donc pour moi, c'est la réponse, elle est pas carabistouillée, pour reprendre un vocabulaire macronien, elle est très simple. Ce qui va faire la différence, c'est quand les Européens auront décidé, avec ce que ça implique, mais de se priver du gaz russe et d'arrêter de financer la guerre qui est menée par Vladimir Poutine en Ukraine.
Ouais, tout à fait. Voilà, merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Allez, jusqu'à la dernière note, je voulais laisser cette chanson « Amour toujours » de Clara Luciani, une chanteuse qu'on aime beaucoup dans ce programme ici. Et cette chanson, donc « Amour toujours », qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'avril. Je vous rappelle, comme après chaque chanson, que notre sélection musicale est disponible sur la plateforme Spotify. Et chaque mois, on fait une sélection des meilleurs podcasts et de la sélection musicale. Allez nous chercher sur Spotify, donc SBS French sous Spotify. 13h46, on va faire une courte pause et on va parler d'un saucisson made in Australia avec du kangourou. C'est la chronique à table Kitchen Conversation, chronique culinaire d'Audrey Bourget, tout de suite après ça.
Bonjour, ici Audrey Bourget. On se retrouve pour le premier épisode de 2022 d'À table Kitchen Conversations. Pour commencer l'année du bon pied, j'ai rencontré Jean-Marc Amard de la Bastide Saucisson Australia pour discuter de son saucisson qui fait le plus parler, celui de kangourou.
Le kangourou, c'est la viande la plus emblématique. C'est la viande la plus emblématique. Il y a 200 ans, enfin un peu plus de 200 ans, mettons 1788, il n'y avait pas de viande. En Australie, il n'y avait pas de porc, il n'y avait pas de bœuf, il n'y avait pas de lamb. Les protéines animales, c'était principalement kangourou, emu. Et le kangourou, c'est vraiment la viande emblématique d'Australie. Et ça reste encore une viande qui est sustainable.
Comme vient de le dire Jean-Marc Amand, fondateur de la Bastide Saucisson Australia, il n'y a pas plus australien que le kangourou. Mais même s'il a plein d'avantages, la viande de kangourou est encore peu consommée au pays. Jean-Marc Amand, lui, s'y intéresse depuis longtemps.
Au tout départ, moi, quand je suis arrivé en Australie, je suis arrivé en 2007 et je suis arrivé comme cuisinier, je suis arrivé comme chef. Et très vite, j'ai été initié aux produits natifs australiens. Donc, moi, ça a été une grosse révélation. Je voulais, au tout départ, ce qui m'intéressait, c'était de travailler avec les produits natifs australiens, donc tous les produits endémiques, que ce soit les viandes, les légumes, les fruits, les épices, etc.
Parallèlement, il a lancé deux entreprises, l'une de charcuterie avec des viandes locales comme le crocodile et le kangourou, et l'autre offrant de la charcuterie classique française. Éventuellement, il a décidé de se concentrer sur la charcuterie d'artisan avec une gamme de saucissons. Et en 2017, il a créé son fameux saucisson de kangourou.
J'avais toujours cette envie d'incorporer du produit typiquement australien. Et en même temps, bon, c'est vrai qu'en 2017, on s'est inscrit pour cette compétition en France du mondial du saucisson. Et quand on a été pris, il était évident qu'il fallait qu'on vienne avec un point de différence. Donc, c'était évident pour nous d'arriver sur cette compétition en France avec un saucisson de kangourou étant le compétiteur australien.
Fait avec du kangourou et du porc, ce saucisson a un goût unique.
Alors d'abord, il faut savoir que les gens qui essayent le saucisson de kangourou, il y a toujours un a priori. Hein. Ça dépend si ça va être des Australiens ou des Français. Les Français vont être plus intéressés à essayer. Alors que souvent, chez les Australiens, il y a une certaine réticence parce que traditionnellement, cette viande-là, elle a été pendant longtemps destinée à faire de la nourriture pour chats et pour chiens. Après, au niveau gustatif, les gens sont toujours très étonnés parce qu'ils s'attendent toujours à quelque chose de fort. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Notre saucisson de kangourou, une fois qu'il est prêt à être consommé, donc relativement frais, Ben on a quelque chose qui est très doux au niveau du goût, un petit peu fruité, une viande très très rouge, très belle couleur. Les gens sont toujours étonnés, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil en fait que ce qu'on pourrait s'attendre.
La fabrication est similaire à celle d'un saucisson classique, mais comme le kangourou est une viande très maigre, Jean-Marc Amard utilise aussi du porc.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la viande de kangourou n'est pas appropriée pour la charcuterie. Enfin, elle n'est pas appropriée pour les salaisons, typiquement. C'est une des viandes les plus maigres qui existent. Je pense que c'est la viande rouge, peut-être la plus maigre au monde, avec un taux de gras de à peu près 2%. Donc, évidemment, pour faire tout type de saucisson ou salami, c'est compliqué, quoi. Il est pratiquement impossible de pouvoir faire quelque chose 100% kangourou. Donc, on travaille, en fait, on fait les premières productions qu'on faisait, c'était 100% viande kangourou et tout le gras, c'était c'est gras de porc. Bon, le produit était encore un petit peu trop fort en goût pour certains, donc on a coupé. Maintenant, c'est maigre de kangourou et de porc et gras de porc.
En 2018, le saucisson de kangourou a reçu une médaille d'argent au Mondial du saucisson en Ardèche. L'un des saucissons a même été vendu aux enchères.
Eh ben, en fait, ce qui s'est passé pour cette compétition, on avait assez peu de matières premières. Donc, on avait un certain nombre de kilos avec nous qu'on a échantillonné pendant 2 jours. Mais les gens étaient un peu frustrés parce qu'ils voulaient tous acheter, en fait. La réception du public a été vraiment super. Les gens voulaient tous rentrer chez eux avec leur saucisson de kangourou. Voilà, malheureusement, on n'était pas à même de pouvoir vendre vu le peu de quantité qu'on avait. Donc, on a décidé de faire une enchère. Et effectivement, je crois qu'on est monté, je ne sais plus à combien on est monté, mais je crois que c'était dans les 50 ou 60, 70 euros pour une pièce. Ouais, c'était assez marrant. Ouais.
Et si la curiosité pour le saucisson de kangourou venait d'abord des Français, de plus en plus d'Australiens sont intéressés.
Je suis vraiment content de ça parce qu'il y a de plus en plus de... Bon, si tu veux, on a sur ce produit, on a un petit peu deux types de clients. Il va y avoir d'un côté le Français qui veut envoyer ça en France ou qui veut le ramener en France parce que c'est un peu le souvenir rigolo d'Australie. Et d'un autre côté, on a les Australiens qui commencent à être de plus en plus demandeurs et qui vraiment supportent en fait cette consommation-là, qui trouvent que c'est vraiment the way to go, c'est là où on doit aller. Et je pense qu'ils ont raison. Je pense que ce serait beaucoup plus sage pour nous de consommer cette viande en priorité plutôt que les viandes les viandes qui sont des nouvelles viandes finalement sur ce territoire, hein, sur ce continent, les viandes classiques occidentales, porc, bœuf et agneau sont vraiment c'est une nouveauté dans l'histoire de l'Australie en réalité.
Jean-Marc Amard espère et croit que l'engouement pour les produits de kangourou ne peut aller qu'en augmentant au cours des prochaines années.
Je prends le pari que les choses vont énormément changer pour plusieurs raisons. D'abord parce que les viandes conventionnelles vont exploser au niveau prix. Aussi, il y a le marché asiatique qui est aussi de plus en plus consommateur des viandes traditionnelles australiennes, donc le bœuf, le porc, etc. Principalement le bœuf et le lamb. Et moi, à mon avis, on va avoir une espèce de pénurie, je pense, ou alors les prix vont devenir très, très prohibitifs sur les viandes d'élevage. Et je pense que la viande de kangourou va vraiment avoir un rôle à jouer qui va être beaucoup plus important dans quelques années, à cause de ça. Sans parler des problèmes de pénurie d'eau aussi, hein, qui vont s'accentuer. Et puis, faut savoir que par nature, c'est une viande qui est organique, quoi. Elle est bio, hein. Là, on parle de... Ce sont des viandes sauvages qui sont... des animaux qui sont dans la nature. Enfin, c'est vraiment un produit propre, quoi.
Si vous voulez goûter le saucisson de kangourou et les autres produits de charcuterie de la Bastide de Saucisson Australia, ils sont disponibles dans plusieurs commerces à travers le pays, dans des marchés fermiers et également au saucisson.com.au C'est saucisson au pluriel avec un S.
C'était Salomé Leclerc avec Partir Ensemble. Une minute pour faire un grand retour sur les titres de l'actualité pour aujourd'hui. En Ukraine, une attaque russe qui a fait 50 morts dans une gare. Et en Belgique, une usine Ferrero qui est fermée par les autorités sanitaires pour un grand nombre de cas de salmonellose. Voilà, c'est la fin de notre programme. Prochain rendez-vous avec le français, c'est demain à 13h avec Jean-Noël Ducasse. Et quant à moi, je vous retrouverai mardi et jeudi à 13h également. Si vous êtes français, n'oubliez pas d'aller voter demain pour les élections ou l'élection présidentielle. Donc demain, voilà, bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.